C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, Éric Rohmer, cinéaste, 1920-2010. Œuvre, Les Nuits de la Pleine Lune, film, 1984. Personnage, Louise, interprété par Pascal Augier. L'amour a ses modes, comme les robes. On n'aime pas de la même façon suivant les temps et les lieux. De vivre nu avec un étui peignant dans un climat chaud ou couvert de fourrure dans un climat froid crée un rapport différent à autrui. De subir une religion moralement rigoriste ou d'être détaché d'impératifs moraux, même chose. Et puis, et surtout, l'influence de ce qu'on dit de l'amour. C'est la passion la plus montrée, la plus illustrée, la plus commentée. Et tout ce qu'on en montre ou qu'on en dit à un moment donné nous conditionne. Je pense que les spectatrices des films hollywoodiens des années 1950 n'ont pas été amoureuses comme les lectrices de Françoise Sagan des années 60, ni celles-ci comme les écouteuses, Maud Verlaine, de Janis Joplin des années 70 et ainsi de suite. Quant aux hommes, un exemple me vient à l'esprit. N'est-il pas possible qu'Édouard VIII d'Angleterre ait dû démissionner parce qu'il avait une conception renaissance de l'amour en plein XXe siècle? En 1500, un roi amoureux, et il a employé le mot « amour » dans son abdication, était une chose flatteuse et banale. Après le goudronnage des conventions au XIXe siècle, être amoureux pour un roi était devenu rare et avilissant. L'amour a peut-être encore perdu du côté masculin le 11 décembre 1936. L'amour est un sujet qui a beaucoup fait parler les personnages d'un cinéaste qui faisait des films très parlants. Ah, comme on parle chez Rohmer, souvent trop. On a parfois l'impression d'avoir affaire à un cinéaste qui préfère les paroles aux images. Impression inexacte, mais il en est en partie responsable, tant ses personnages débitent de phrases captant l'attention nécessaire aux images. Malgré une tendance au bavardage, plusieurs de ses films arrivent à quelque chose de gracieux et de durable, et en particulier Les Nuits de la Pleine Lune. Film, allais-je dire, qui montre mieux que tout autre ce qu'ont été les années 80. D'une part, les années 80 n'ont pas été les mêmes pour tout le monde. D'autre part, ce film, sorti en 1984, a lui-même contribué à colorer cette période. Le moment si gracieux des Nuits de la Pleine Lune est dû à deux excellents rôles secondaires, ceux de Rémy et d'Octave, et à l'excellent personnage de Louise. Louise, interprétée par Pascal Augier, avec sa tête du Fayoum aux grands yeux liquides. Louise, avec ses sourcils très noirs mais au cœur qui ne l'est pas. Louise, notre Joan Crawford, tendre. Louise, la solitaire incomprise parce qu'elle veut de la solitude. Qui est Louise? Pour en parler, je reçois Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française. Frédéric Bonneau, dites-moi à quoi ressemble cette Louise qui a à peu près 25 ans dans le Paris des années 80 où l'histoire se passe.
Eh bien, une jeune femme de son temps, prise dans l'air du temps. D'abord, pour préciser, j'adopterai quand même le système de défense d'Éric Rohmer lui-même, quand on lui disait qu'il était un cinéaste bavard, trop bavard, très parlant. Il disait, mais vous savez, dans la vie, on parle beaucoup. Vraiment, il a raison. Dans une journée, on parle énormément.
Et donc, oui, mais on ne parle pas pour les mêmes raisons. Et un film est une œuvre d'art et la vie n'en est pas une.
Oui, mais le cinéma est un art réaliste, en tout cas pour Rohmer. Rohmer, c'est un réaliste, hein, il faut le savoir. Vraiment un réaliste français. C'est-à-dire que son maître, c'est Jean Renoir. Et avant Jean Renoir, il y a les Frères Lumière. C'est ça qui intéresse Rohmer. Donc, il disait toujours, le réalisme des situations, c'est que justement, on parle pour séduire quelqu'un. Ma foi, on n'a encore rien inventé de mieux que de parler. Et donc, effectivement, les films d'Éric Rohmer sont très parlés. Moi, je ne pense pas qu'ils sont bavards. C'est deux choses différentes. Et Louise est quelqu'un qui parle beaucoup, parce que comme la plupart d'entre nous, elle pense aussi, il lui arrive de penser à haute voix. Et donc, elle se retrouve dans la situation inversée des personnages masculins d'Éric Rohmer dans les six contes moraux, ceux des années 60 et des années 70, qui était un homme hésite entre deux femmes. Comme il aimait bien les choses un peu schématiques comme ça pour ensuite les compliquer, souvent il y avait une brune et une blonde. Eh bien Louise, dans Les Nuits de la Pleine Lune, c'est une jeune femme qui hésite entre sa vie avec un homme, tout à fait, ils sont pas mariés, mais c'est un couple marital, et puis les tentation de la vie nocturne à Paris.
Alors, elle n'a pas de nom de famille, comme souvent chez Romère. Mmh. Qu'est-ce que c'est ça? On a l'impression qu'il veut donner une idée de communauté à la fois proche et exclusive, excluant les autres.
C'est-à-dire qu'elle n'a pas à donner son nom, encore une fois, la plupart du temps.
Non, mais ça pourrait arriver, parce qu'elle est dans des situations courantes où son nom pourrait apparaître.
Oui, bien sûr, mais c'est vrai que ça, c'est le côté conte de Romère. Il appelle la plupart du temps, que ça soit ses personnages masculins ou ses personnages féminins, uniquement par leur prénom, absolument, bien sûr. Donc, lui s'appelle Louise, et son soupirant, un de ses soupirants, me semble-t-il, qui est interprété par Fabrice Lucchini, dont cette affaire va changer la vie, parce que enfin, il va porter un succès, et ça va lancer sa carrière, s'appelle Octave, et bien sûr, quand on est chez Éric Rohmer et qu'un personnage s'appelle Octave, eh bien oui, c'est Jean Renoir et sa peau d'ours dans La Règle du jeu.
Alors, à sa première apparition, Louise, qui est donc interprétée par Pascal Augier, a un gros nœud vers un dans les cheveux, Elle est toute mousseuse, elle a des cheveux fouettés, un manteau laineux, elle a quelque chose d'une peluche, comme si elle voulait se pelotonner, parce que c'est l'hiver, mais aussi dans sa personnalité.
Alors moi, vous savez, là, je suis né un peu trop tard dans un monde trop vieux, mais à cette époque-là, je n'avais que 17 ans, donc les filles étaient quand même là, mais un peu lointaines. Je ne pouvais pas rencontrer quelqu'un d'une petite trentaine d'années ou de 25 ans comme Louise, mais c'est vrai qu'il me semble que vers les Halles et dans Paris, eh bien, ma foi, les femmes s'habillaient comme ça, oui, ce qui est drôle d'ailleurs, parce que Pascal Augier raconte que non pas un conflit, parce qu'elle n'avait pas des conflits, mais une discussion avec Éric Rohmer, c'est qu'elle avait tendance à mettre ses cheveux trop hauts. Alors, il n'y avait pas encore le chignon haut des bobos et de la gentrification aujourd'hui, dans la fin de nos années 2010. Mais effectivement, il y avait le côté bandeau et mousseux dont vous parlez, et ça n'entrait pas dans son cadre. Et donc, il n'était pas content, Éric Rohmer. Ce qui rappelle évidemment Brigitte Bardot et sa choucroute, qui n'entrait pas dans le cadre de Jean-Luc Godard pour Le Mépris. Donc Jean-Luc Godard avait marché sur les mains pour faire baisser à chaque mètre marché sur les mains. Brigitte Bardot avait accepté d'enlever 1 centimètre de sa choucroute. Donc là, je pense que les négociations ont été plus faciles avec Pascal Augier, qui a bien voulu enlever un peu de cheveux vers le haut.
Et qui a d'ailleurs, qui est crédité au costume et aussi au décor du film.
Vous avez absolument raison. Elle a non seulement conçu les costumes de Louise, ce qui est presque la moindre des choses, mais aussi le décor de son petit studio parisien. Donc il y avait l'appartement Louise, elle dit qu'elle s'en est occupée quasiment toute seule, et que quand même pour l'appartement Octave, donc l'appartement conjugal, là ça a été une discussion avec Rohmer.
Alors je disais que c'est un cinéaste qui parle beaucoup, mais que à cause de ses paroles on fait parfois moins attention aussi à son côté purement cinéaste, et il est très là, et en particulier par l'usage des couleurs dans ce film, qui sont dans des tonalités bleues et grises parce que c'est l'hiver.
Parce que c'est l'hiver, parce que c'était sa façon de styliser les choses, parce qu'il aimait bien se fixer un peintre comme ça, de façon un peu imaginaire, parce qu'il n'appliquait pas strictement les choses, mais disons qu'il y a un côté Mondrian, c'est explicitement cité.
Et d'ailleurs, il y a 2 tableaux de Mondrian dans l'appartement de
Vous savez, Rohmer, c'est toujours la clarté. Donc, si cite Matisse, il y a une reproduction de Matisse, c'est Pauline à la plage, dès l'affiche du film. C'est la blouse roumaine, si ma mémoire est bonne. Et pour Les Nuits de la Pleine Lune, c'est Mondrian. Mais vous avez absolument raison de dire, et on l'oublie trop souvent, parce qu'effectivement, c'est un cinéaste de la parole, c'est incontestable. Rohmer est peut-être le plus fort metteur en scène de sa génération. C'est-à-dire qu'il a une science de la mise en scène, du découpage, du déplacement des personnages dans l'espace, qui est absolument inouï. Et je rappelle qu'il a soutenu sa thèse de troisième cycle. Ça s'appelait, me semble-t-il, Sens de l'espace ou découpage de l'espace dans le fosse de Murnau. Donc c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à ça.
Alors Louise vit à Marne-la-Vallée avec un jeune homme qui est Rémi, qui est admirablement, à mon avis, interprété par Tchéky Cario, et qui est un architecte qui travaille à la mission d'aménagement de la ville nouvelle. Elle-même est employée dans une agence de stylisme. Ça se passe donc dans cette bourgeoisie parisienne ou moyenne bourgeoisie parisienne à métier artistique qu'on appelait à l'époque les branchés. Est-ce qu'on peut dire ça?
Pas tout à fait, parce qu'effectivement il y a un peu l'attraction des Halles. Je crois que son studio est vers la rue Montorgueil, effectivement, mais Il y a aussi le côté Marne-la-Vallée. Alors ça remonte à très très loin. C'est-à-dire qu'Éric Rohmer, qu'on a toujours tendance à décrire comme quelqu'un d'assez conservateur, quand on le traite pas carrément de réactionnaire, quoi bon. N'empêche que dès les années 60, le côté aménagement du territoire, ville nouvelle, ville utopique, c'est quelque chose qui passionne Éric Rohmer. Et ce qu'il passionne, c'est le déplacement des gens dans l'espace lié justement à leur travail, à leur activité professionnelle. Donc Louise, qui travaille à Paris, vit à Marne-la-Vallée, mais comme elle le dit sublimement, Pascal Augier, qui a besoin de passer une nuit blanche par semaine pour se sentir tout à fait bien, presque sa tension, eh bien, c'est le RER, c'est-à-dire qu'elle prend le RER au Hall, elle va à Marne-la-Vallée, et finalement, comme le dit le proverbe du film, parce que je vous rappelle que les Nuits de la pleine lune
sont précédées d'une épigraphe.
Voilà, et surtout sont dans une série, comme les Contes Moreau, qui s'appelle Comédies et proverbes. Donc le proverbe ou la maxime du film, c'est « qui a deux maisons perd la raison ».
Alors vous avez relevé un des besoins très caractéristiques à mon avis de Louise, c'était le besoin absolu de la nuit blanche, mais elle en a un autre qui la rend encore plus personnelle, c'est le besoin de solitude. Elle a besoin de solitude et le goût de la solitude n'est pas très compris et à mon avis encore moins chez les femmes.
Mais surtout, ce qui est très compliqué avec la solitude, c'est de la représenter à l'écran, pour le coup. Parce qu'on parlait de cinéaste Rohmer, cinéaste bavard. Effectivement, c'est un cinéaste de la solitude, qu'elle soit masculine ou féminine. Jean-Louis Trintignant, au début de Ma nuit chez Maud, vit seul dans une grande maison au-dessus de Saint-Étienne, un peu dans les monts, etc. Marie Rivière, dans La femme de l'aviateur, vit seule dans son petit appartement. Louise, dans Les nuits de la pleine lune, vit seule dans son studio. Et représenter quelqu'un chez lui, en train de lire, de se faire du thé, d'écouter de la musique, voilà la grande école réaliste.
Tout ce qu'elle fait.
Tout ce qu'elle fait. Et voilà la grande école réaliste française, jusqu'à ces moments romérien, parce que c'est la contradiction des gens, mais ce sont nos contradictions. C'est qu'à un moment, elle empoigne le téléphone gris de l'époque, elle prend son carnet d'adresse et puis elle se met à appeler des gens pour voir des gens et pour sortir, après avoir prétendu que naturellement, elle n'aspirait qu'à la quiétude et à la solitude.
Alors elle a un ami parfaitement odieux qui est Octave, qui est interprété par Fabrice Lucchini.
C'est odieux et séduisant.
C'est le serpent domestique. Bah quand même, il est marié, il a un enfant, il essaie de la séduire.
Il lui casse son mari.
Il est parfaitement. Non, c'est un pervers. Il l'interprète très bien, mais c'est.
Il est magnifique, Lucchini. Il est magnifique parce qu'il est dans le.
Il est dans le plaisir
des dialogues de Rohmer. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'improvisation chez lui, mais ce que vous lui reprochez, en fait, et on peut pas vous donner tort.
Non, je le reproche au personnage, pas à
Lucchini. Oui, mais c'est qu'il en fait trop. C'est un personnage qui en fait trop. C'est-à-dire qu'il en fait tout le temps trop. Mais ça, il faut savoir, et Lucchini le raconte très très bien, que Rohmer, sur le tournage, disait, Fabrice, plus, comment vous dire, plus Fernandel. Vous imaginez Éric Rohmer, plus Fernandel. C'est dire aussi la liberté d'esprit. Et donc, Lucchini a appliqué plus Fernandel.
Écoutez, il dit quand même, juste après avoir essayé d'embrasser Louise, Louise, il lui dit, tu es la fille que je respecte le plus au monde, il y a en toi quelque chose de virginal.
Ben oui, c'est pour ça qu'il cherche à l'embrasser.
C'est ça. Et donc, à la fin de cette histoire de Louise qui est partagée entre son besoin de solitude, son désir de former un couple libre, revient à Marne-la-Vallée où elle retrouve Rémy et qui, lui, a trouvé une femme.
C'est compliqué, c'est-à-dire que c'est un peu, alors ça c'est toujours les morales à la Rohmer, mais c'est des morales à prendre, pas exactement pour argent comptant, c'est qui est prise, qui croyait prendre, c'est-à-dire que Louise était persuadée de contrôler la situation. Rohmer est un cinéaste du contrôle, hein, il faut le savoir, de la maîtrise et du contrôle. Et donc ce qui arrive à ces personnages, c'est aussi ce qu'il cherche lui comme metteur en scène. Et à un moment, Louise s'aperçoit qu'en fait elle a tort, elle ne maîtrise pas, ce n'est pas elle qui ment le plus, ce n'est pas elle qui dit simule le plus. Et Éric Rohmer, s'il a cherché à s'affranchir de toutes les pesanteurs techniques du cinéma pour finalement faire le rayon vert, c'était aussi dans cette recherche de perte de contrôle et de perte de maîtrise.
Ça veut dire qu'il interdisait toute improvisation sur les tournages ?
Non, il les interdisait pas, mais on aurait tort de croire que, par exemple, un film comme Les Nuits de la Pleine Lune est improvisé. C'est un film très écrit. Un film comme Le Rayon de Verre, qui va arriver juste après, lui, en revanche, là, Marie Rivière et les autres comédiens avaient non seulement le droit, mais étaient invités à improviser. Tandis que là, il fallait respecter le texte. Et d'ailleurs, vous parlez de Checky Cario, et je suis d'accord avec vous, c'est un merveilleux acteur dans le film. Il y a eu des conflits avec Rohmer, parce que que Romère n'avait pas l'habitude qu'on discute sa mise en scène. Et donc, il paraît que, évidemment, il vous voyait tout le monde. Romère ne tutoyait personne. Il disait à Checky Cario, mais vous vous immiscez dans la mise en scène. Enfin, ce qui était pour lui, mais
oui, parce que je crois qu'il était, il se prenait un peu pour acteur studio, non, Checky Cario?
Oui,
un peu comme
absolument.
Ça.
Et puis, on voit bien que c'est un personnage masculin qui détonne et qui, d'ailleurs, peut-être manque dans certains autres films d'Éric Rohmer où les personnages féminins sont toujours sublimes. Ça, tout va bien. Mais les personnages masculins, ils sont parfois un peu falots, ouais. Quoi. On a l'impression qu'ils accrochent pas exactement la pellicule. Tandis que Checky Cario, il a un côté jeune premier, comme ça, un peu viril, un peu musculeux, qui se donne des coups de poing quand il n'est pas content, quand il se dispute avec lui. C'est assez étrange dans le système romérien et ça fait partie du charme original du film.
Ce qui m'a frappé en le revoyant, c'est que Louise, donc interprétée par Pascal Augier, pleure tout le temps. Mmh. Et quand même, une fille qui pleure tout le temps, peut-être que dans la vie, me direz-vous, ça existe, mais je me demande s'il n'y a pas une teinture de misogynie là-dedans. On dit, ou alors on se demande s'il ne sait pas, par certains moments, comment la faire réagir.
Non.
Je trouve qu'elle pleure presque trop.
Elle pleure, si mon souvenir est bon, essentiellement deux fois. Quand elle repousse Octave, et quand même les avances physiques là pour le coup d'Octave sont un peu lourdes, disons, donc elle est déçue. Et puis il y a les larmes de douleur et de surprise et de déconfiture de la fin. Mais alors ça, pour le coup, c'est effectivement très romérien. Souvenez-vous que juste dans le film d'après, Le Rayon Vert, Marie Rivière à la fin pleure de joie dans les bras d'un amoureux qu'elle vient de rencontrer parce qu'elle voit enfin le rayon vert. Donc les larmes chez Romère, c'est toujours évidemment la chute de la tension, quoi. On pleure parce que la tension est trop forte.
Nous allons maintenant entendre une chanson très années 80 qui n'est pas d'Élie et Jacquenot que l'on retrouve évidemment dans Les Nuits de la Pleine Lune, mais d'Étienne Dao et à mon avis une des plus jolies chansons de fin de fête que je connaisse et qui s'intitule Saint Lunaire, dimanche matin. Elle date de 1984 et l'interprétation d'aujourd'hui est extraite d'un récital à l'Olympia de 1993.
Dans le vestibule où nos regards se croisent, vais-je enfin oser l'amener sur la plage? Bonjour. L'amener sur la plage. Bonjour. Sur la plage, bonjour. C'est l'heure des folies permises. Enfin, l'heure où je ne comprends plus rien. La fête s'achève, plus une cigarette. Et toi, tu as compris, tu me suis sans rien dire. Bonjour.
Frédéric Bonneau, Louise dans Les Nuits de la Pleine Lune, le film d'Éric Rohmer, est jeune et elle a une idée de la jeunesse. Ce qui arrive sans doute aux idéalistes, car les autres préfèrent se préparée à l'entrée dans le monde du pouvoir, elle dit, sortir avec des amis, voir des gens nouveaux, aller danser, ne pas toujours avoir un plan pour le dimanche ou pour le soir. Et d'ailleurs, la danse est quelque chose d'important dans le film. Je peux attester que Romère, dans ce film, a montré comment exactement danser dans les fêtes des années 80.
Oui, comment il dansait lui-même, d'ailleurs. Il y a des photos qui l'attestent.
Ah oui,
oui, oui, bien sûr.
Mais lui
sûr.
Ne sortait pas beaucoup. Il a raconté que la scène de fête, en fait, il l'a fait faire presque par d'autres.
Ah bah, il l'a fait faire par des amis. On reconnaît une bonne part du cinéma français un peu branché autour des films du Losange de l'époque. Il doit y avoir dans un coin Benjamin Baltimore, l'affichiste qui était le compagnon de Pascal Augier. Je pense que tout ça se passe chez un célèbre organisateur de fêtes et un grand ami qui s'appelle Maurice Tinchamp. C'était dans ses bureaux ou dans son appartement. Enfin bref, il était dans le coup. Ça s'est fait toujours, comme toujours chez Romère, avec quelques amis, pas de régisseur, pas de repéreur. Enfin, c'est le système de la débrouillardise. Et effectivement, on chante sur Élie et Jacques et il a dû capturer, vous avez raison, en quelques plans, exactement l'air de la nuit de ces années-là.
C'est ce qui tient beaucoup aussi au personnage de Louise interprété par Pascal Augier, qui danse de manière exquise.
Pascal Augier lui a tout apporté, c'est-à-dire non seulement son jeu, que encore une fois il qualifiait lui-même d'incomparable, et je vous assure que chez Romer c'est vraiment un très très grand compliment, mais elle lui a apporté évidemment le côté documentaire, le côté matériau brut de la jeunesse. Encore une fois, Romer c'est quelque chose qu'il sait qu'il ne peut pas avoir de façon factice.
Il a quel âge au moment du film à peu près?
Bah écoutez, il est né en 20, non?
Oui, donc il a
64 ans, voilà, c'est ça. Donc il va pas aller traîner au hall, enfin sérieusement, quoi. Donc il fait avec son intelligence de cinéaste réaliste et son intelligence de documentariste. C'est-à-dire que Pascal Augier lui amène toute une frange, en tout cas, de la jeunesse de ces années-là, c'est-à-dire la New Wave. Elle lui amène les sacs, c'est quoi? C'est Dorothée Biss à l'époque.
Voilà.
Il y a beaucoup de ça dans le film. Et puis ces invraisemblables sacs à main en plastique grillagé noir, dont on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Enfin, tout ça passe dans le film.
Mais d'ailleurs, même les objets, une théière, quelque chose, c'est aussi la couleur de l'époque.
Bien sûr, mais ça, c'est très important. C'est pas anecdotique parce que c'est un des nombreux défis du cinéma d'Éric Rohmer. Chez Rohmer, plus on mettra d'air du temps, plus on mettra de détails, plus on mettra de choses qui peuvent être datables, mais qui donc peuvent se révéler datées, et bien plus il y aura tout ça, plus le film sera éternel et intemporel. C'est très fort.
C'était le premier rôle de Pascal Augier ?
Non. Non, parce que Pascal Augier, donc, c'est une enfant de la balle. Et
donc, la fille de Bulogier.
Voilà. Et elle avait tourné avec sa maman un des chefs-d'œuvre de Jacques Rivette, qui lui aussi fait partie d'exactement la même nouvelle vague que Éric Rohmer, c'est-à-dire les cinq des cahiers du cinéma. C'est un peu d'ailleurs son opposé, parce que Éric Rohmer sera viré de la rédaction en chef des cahiers du cinéma après un putsch sanglant au profit de Jacques Rivette. Donc, c'est des gens qui avaient des relations de respect, mais quand même assez fraîches, on va dire. Mais donc, Pascal Augier et Bulogier, sa mère, tourne 3 ans avant, 4 ans avant, peut-être, un des chefs-d'œuvre de Jacques Rivette qui s'appelle Le Pont du Nord.
Elle a eu pour ce film, il faut le dire en passant, le prix à Venise.
Absolument, ça a été un triomphe, Les Nuits de la Pleine Lune, mais vraiment un triomphe. C'est-à-dire que elle a eu le prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Je crois que d'ailleurs, le film a eu, si je me trompe pas, le film a eu le Lion d'Or, ça on vérifiera, je suis pas sûr. Et puis surtout, ça a été un succès public. Phénoménal.
Probablement un des plus grands succès de Rohmer, non?
Ah, Manu chez Maud avait très bien marché. Ce qui sauve Rohmer, c'est le succès de Manu chez Maud, qui fait plusieurs millions d'entrées, quand on y songe.
Oui.
Et qui est un succès international. C'est-à-dire qu'à partir de là, Rohmer, c'est peut-être celui de la nouvelle vague qui a fait ses films le plus tard et dans les plus grandes difficultés. Et ben, finalement, c'est des cinq le plus commercial. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est celui dont les films ont finalement rapporté, mais alors, mille fois leur mise.
Alors, il y a une chose de Louise qui n'est pas, à mon sens, du tout des années 80. C'est une forme d'idéal qu'elle a relativement au corps. Elle dit, et je la cite, « Les relations physiques ne m'intéressent pas. Je n'ai jamais eu de ma vie une relation purement physique. » Or, nous savons, peut-être pas vous, Frédéric Bonneau, mais que les années 80 ont été très dessalées sous ce rapport.
Oh, j'ai encore tout raté, j'étais trop jeune. Écoutez, oui, c'est ce qu'elle dit, mais c'est pas ce qu'elle fait. C'est toujours ça l'intérêt du cinéma de Rohmer. C'est qu'encore une fois, il filme des gens en train de dire quelque chose et d'en faire une autre.
Oui, mais...
Et comme nous dans la vie, Charles, tout le temps.
Moi, jamais.
C'est-à-dire que, par exemple, Louise dit ça, très bien, et le beau Christian Vadim, avec ses petits gants à la saignée du poignet, là, qu'elle ramasse dans une fête et qu'elle ramène dans son studio, et on les voit au lit ensemble, hein, je vous dis, c'est un cinéaste clair, Rohmer, eh ben, là, je doute qu'elle pense faire sa vie avec lui, donc...
Oui, mais justement, elle est assez raccord, parce qu'elle dit ça, et elle le fait, elle a une aventure d'un soir avec Christian Vadim, j'oublie le nom de son personnage, on la voit le quitter très vite, en le regardant d'un œil un peu condescendant, prendre ses vêtements et partir au petit matin, aller dans un bistrot, mais... Je pense pas, c'est pas une Marie couche-toi là, quoi.
Ah, pas du tout. Voilà. Ah, mais quelle idée. Ah non, mais ça, vous avez dit ça tout à l'heure. S'il y a bien un cinéaste, mais qui ne peut pas être soupçonné, alors la preuve à l'appui, hein, on peut en discuter, de misogynie, c'est bien Éric Rohmer. Parce que lui, il allait loin dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'il vivait littéralement entouré deux jeunes filles, deux jeunes femmes, qui venaient prendre le thé à 5 heures, qui lui servaient de matériaux documentaires, qu'il prenait pour tourner dans ses films, avec lesquels il devenait ami, hein, mais vraiment ami. Et évidemment, les gens autour de lui, les gens de la production lui disaient « Mais enfin, Eric, toutes ces jeunes femmes magnifiques qui défilent dans votre bureau, mais comment faites-vous » Et il répondait « J'ai un secret, la chasteté absolue.
» Alors, ce film, on l'a dit...
Et il ajoutait qu'il était lui-même une jeune fille. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les films de Romère, c'est vraiment une exploration du continent féminin fait par un homme, et un homme, effectivement, comme vous le disiez, plus si jeune, et qui raconte les aventures des femmes, comme je pense, personne ne les a racontées.
D'où, Frédéric Bonneau, nous pouvons être, pour ce qui est très critiqué de nos jours, pour l'appropriation culturelle. Moi, je suis très pour qu'un homme prenne un personnage de femme, un noir crée un personnage de blanc, etc., etc., n'est-ce
Bien
pas
sûr. Bien sûr.
Alors, nous l'avons dit, c'est un film qui se passe entre, qui va et vient, qui, entre Marne-la-Vallée et Paris. Il y a une histoire d'aimantage et de désaimantage de Louise par rapport à ces lieux. Ce qui m'a assez frappé en le revoyant, c'est que c'est un film de plan assez serré. Il n'y a jamais de grande perspective, ni de Marne-la-Vallée, ni de Paris d'ailleurs. Donc, on voit bien que les cadrages nous disent, c'est une question d'intimité.
Bien sûr, c'est un film sur l'intimité et vraiment sur l'espace et le déplacement du personnage en l'espace. C'est-à-dire que quand elle arrive à Marne-la-Vallée, il montre vraiment le décor d'une ville nouvelle et pas forcément pour dire c'est affreux, c'est moche, il faut s'engosser, regardez comme le centre de Paris, il a bien sûr fait exprès de prendre le ventre de Paris, comme dirait l'autre, vraiment les anciens halles, etc. Ouais. Mais il dit pas du tout que la rue Montorgueil, c'est forcément plus joli que Marne-la-Vallée. Pas du tout, c'est quelque chose qui l'intéresse. C'est-à-dire, c'est quand même quelqu'un, Éric Rohmer, il a fait un film documentaire quand il pouvait pas tourner, justement, c'est Comte Moreau. Il faisait des films documentaires pour vivre, pour la télévision scolaire. Il y a un de ces films documentaires qui s'appelle « Évolution du paysage urbain ». Voilà typiquement quelque chose qui l'intéresse.
Bah, d'ailleurs, pour venir à votre appui, on pourrait dire que le film est finalement l'espoir de Marne-la-Vallée, puisque celui qui est heureux, c'est Rémi, et qui sourit, qui a trouvé une nouvelle femme, et la malheureuse, c'est Louise qui revient à Paris en pleurant.
Bien sûr, et puis à un moment, il y a une adéquation entre ses aspirations et son espace, c'est-à-dire que si on veut sortir et faire la vie tous les soirs, ben, il vaut mieux vivre à Paris. Si on veut pratiquer le sport, comme va le faire Rémi et sa nouvelle amie, eh ben peut-être qu'il vaut mieux vivre à Marne-la-Vallée. Il y a aussi ça chez Romère, qui est un grand sportif. Là encore, aucun mépris. C'est quelqu'un qui n'a jamais pris un taxi, on n'en parle même pas, mais même un bus ou un métro. C'est un piéton de Paris, Romère.
Alors, il y a une chose qu'on pourrait imaginer, me semble-t-il, c'est une rencontre entre Louise, donc le personnage de ce film, et le personnage d'un film qui est sorti seulement 3 ans auparavant, Georgia, dans le film d'Arthur Penn, en anglais s'appelle Four Friends. Et il y a une phrase de Georgia qui m'a toujours frappé à la fin. Georgia qui est une fêtarde, qui se drogue, etc. La fin du film, elle dit « J'en ai assez d'être jeune. » Et on a l'impression que ce film de Romère est aussi à la charnière des années 80, à un moment où on se dit qu'il y a une espèce de désir inconscient d'un retour à une bourgeoisie apaisée ou quelque chose comme ça.
Je suis pas très sûr de ça, parce que Louise, elle a quand même un côté, elle est empêtrée dans ses contradictions, encore une fois, comme tout un chacun, comme tout le monde, mais elle est sur la barricade, quoi. Je suis pas sûr que c'est quelqu'un qui aille justement vers le côté rangé, quoi, disons.
Oui, oui, oui,
rangé ou bourgeois. D'ailleurs, à la fin, ma foi, elle se retrouve seule, quand même, hein.
Elle part un peu comme dans un film de Charlot, non? On la voit partir toute seule vers la gare.
Tout à fait. Elle part seule, ou même, alors, pour prendre un cinéaste qui n'a vraiment rien à voir avec Éric Rohmer, mais qui lui aussi a fait de beaux portraits de femmes, comme une héroïne de Claude Sauté, vous voyez, pour prendre des cinéastes, mais alors totalement antinomiques.
Totalement.
Elle part dans le flou, là, parce que là, c'est pas flou, mais elle part à la fin seule et on ne sait pas ce qu'il va advenir d'elle.
Avec un panneau de sans interdit au coin de la rue dont on se demande si c'est un signe de Rohmer ou pas, d'ailleurs. Peut-être pas.
Il aurait adoré cette question.
Frédéric Bonneau, que vous a appris le personnage de Louise?
Vous savez, c'est toujours pareil, hein, les très grands cinéastes, et moi, Éric Rohmer est mon cinéaste préféré, j'en fais pas mystère. Il est comme Jean Renoir, Mizoguchi ou Hitchcock, enfin c'est quand même de ce niveau-là, hein, Rohmer ou Dreyer, pour prendre des gens qu'il adorait en plus. C'est toujours la même chose, voir leurs films dévoile à nos yeux notre propre vie. C'est ce qu'on demande aussi aux grands écrivains, vous le savez mieux que moi. Mais voilà, moi, les films de Romère et ce film-là, comme les autres, et le personnage de Louise, qu'il soit un homme, une femme, un vieil homme, une jeune femme, me fait exactement le même effet, c'est-à-dire que je comprends un peu mieux ma propre vie et le monde.
C'était Personnage en personne, le 104e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage d'Ajax le Grand, créé par Homère dans l'Iliade.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Meryl Moneghetti, prise de son Marie le Peintre.
De ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
Grand jeudi, tous les jours paradis.